Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, l'Église nous invite, pendant ce carême, à un peu de joie, et de joie qui est tout à fait légitime. Cette joie d'avoir un Père qui est dans les cieux, qui veille sur nous. Et cette joie également de pouvoir un jour rejoindre ce Père dans la Jérusalem céleste. C'est le thème de toute la messe, c'est le thème en particulier bien sûr des lectures, à savoir de l'Épître, qui nous rappelle que nous sommes les enfants de la promesse, les enfants de Dieu et non pas les enfants de l'esclavage. Nous sommes héritiers de Dieu comme Isaac est héritier de son père Abraham. L'évangile, bien sûr, cette multiplication des pains, notre Seigneur en fait effectue deux multiplications des pains dans les évangiles, donc celle que nous méditons aujourd'hui sur l'évangile de Saint Jean, nous montre également un signe frappant de cette vérité avec notre Seigneur qui nourrit une foule très nombreuse. Donc dans le monde actuel où on est rongé par l'inquiétude, le souci du lendemain, nous sommes quand même dans un monde effectivement qui manque de foi, qui manque d'esprit surnaturel, qui ne croit plus en Dieu et donc dans la providence divine. Par conséquent, nous sommes tous plus ou moins influencés, je le répète, et il faut en être conscient, nous sommes influencés dans notre vie de tous les jours, dans notre pensée, dans notre comportement, par ce manque de foi dans la providence divine. Par conséquent, il faut nous rappeler cette vérité, et c'est ce que fait l'Église. La première vérité, c'est que Dieu prend soin de ses enfants. Nous sommes ses enfants, c'est ce que vient d'établir Saint Paul. Nous sommes ses enfants par le baptême, un père s'occupe de ses enfants. Nous voyons cette providence à l'œuvre, là aussi Saint Paul le rappelle, il le rappelle ici, il le rappelle dans d'autres endroits. La providence prend soin de son peuple, prend soin de ses enfants. Abraham et Sarah, ce sont les exemples qui sont donnés. Ici, on réussit à avoir un enfant, un héritier dans leur vieillesse, alors qu'ils n'en étaient pas capables jusqu'ici. Donc Dieu a pourvu à la descendance d'Abraham qu'il avait choisi pour être le père d'une multitude. Bien entendu, nous avons aussi l'exemple de Dieu qui pourvoit son peuple par la manne dans le désert. Et pas seulement la manne, hein. Quand on voit, il y a d'autres occasions, lors de l'exode des Hébreux vers la terre promise, et pendant ces 40 années de punition dans le désert, nous voyons Dieu intervenir non seulement pour donner la manne chaque jour, la quantité juste nécessaire à chacun, mais aussi pour donner de l'eau, hein. C'était l'épître d'hier, n'est-ce pas, que vous avez lu et médité, pour donner également des cailles quand le peuple râlait, on avait marre de la manne et compagnie, donc ils voulaient un peu de viande, Dieu leur donne des cailles jusqu'à satiété, etc. Bon, après ils sont punis quand même de leur murmure. Donc, nous voyons bien dans la Sainte Écriture que Dieu prend soin de son peuple. On peut continuer les exemples plus proches de notre miracle d'aujourd'hui, les diverses multiplications. Nous en avons lu certaines, là encore, pendant ce temps du carême. Cette veuve de Sarepta, qui n'a plus rien, qui est prête à se laisser mourir et qui est aidée par le prophète, avec multiplication de l'huile et de la farine, pour pouvoir payer ses dettes et pour pouvoir se faire du pain en abondance, hein, simplement avec de l'huile et de la farine. On a aussi cette autre veuve qui voit son huile multipliée, donc là pour payer ses dettes également, de façon spéciale. On a encore, et là encore plus proche de notre miracle, le prophète Élisée. hein, qui demande à son serviteur de nourrir 100 hommes avec seulement 20 pains. Bien sûr, son serviteur, il n'y croit pas beaucoup, qu'est-ce que je vais faire? Et puis finalement, tout le monde est rassasié et il en reste, comme dans notre miracle d'aujourd'hui. Donc Dieu prend soin de ses enfants. Si il en prend soin matériellement, comme on le voit dans ces épisodes, comme on le voit dans la multiplication des pains, a fortiori, il prend soin de nous au niveau de notre vie spirituelle. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la manne ou la multiplication des pains d'aujourd'hui sont données comme des images, comme des figures de la Sainte Eucharistie qui est la nourriture spirituelle par excellence. Venons-en à ce miracle d'aujourd'hui et essayons d'en mesurer toute la portée avec quelques chiffres. Eh bien, chers frères, nous avons 5000 hommes. On comptait les hommes, on comptait pas les femmes et les enfants. Ça ne veut pas dire que les femmes et les enfants ne comptaient pas. Ça veut dire que c'est plus facile de compter les hommes et que probablement, lorsqu'on fait la distribution, c'est plus facile de laisser les chefs de famille venir à la distribution. Donc c'est pour ça que on a pu aussi estimer à peu près à 5000 hommes. Ça donne quoi 5000 hommes? Les estimations qu'on pourrait faire, c'est entre 15 et 20 000 personnes. Déjà, imaginez un peu, hein, sur cette montagne, 20 000 personnes. Hein, ceux qui regardent un peu le sport, les stades de football, vous imaginez un peu ce que c'est, déjà un stade de 20 000 personnes, tout ça autour de notre Seigneur. Bon, il se met sur la montagne, probablement il y a un peu d'écho, comme ça tout le monde peut entendre ses sermons, et puis il dit à Philippe, bon ben, ils ont peut-être faim, ça fait 3 jours qu'ils me suivent, qu'est-ce qu'on va faire là? Il faudrait combien d'argent pour ça? Donc Philippe fait une estimation et c'est pas possible. Mais on a un enfant qui lui était prévoyant et dans sa petite bourse, eh bien, il se promenait avec 5 pains et 2 petits poissons, probablement des poissons séchés, hein, sinon le poisson ça se gâte rapidement. On est proche du lac de Tibériade. Hein, donc on a du poisson en abondance. Donc 5 pains et 2 poissons pour nourrir, on va dire, on va faire la moyenne, 17 500 personnes. Notre Seigneur Jésus-Christ donc dit, bon, allez-y, faites-les asseoir, vous faites venir les hommes, et puis on va faire la distribution de nourriture, chacun peut prendre en abondance. Il bénit et on distribue. Et autant on distribue, autant il y en a. En estimant les besoins réels de chaque personne, admettons qu'on mange 500 grammes de pain d'orge et 250 grammes de poisson séché pour 17 500 personnes, ça nous fait 8,75 tonnes de pain. 1750 kg de pain et 4 tonnes 375 de poissons séchés. 4 tonnes 375 de poissons séchés, ça donne 17,5 tonnes de poissons frais. 17,5 tonnes de poissons frais, ça donne environ 87 nuits de pêche. Ou la pêche de 3 mois pour une flotte de 10 barques dans le lac de Tibériade. Pour vous faire un peu mesurer l'énorme miracle que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Les théologiens pensent que c'est par multiplication de la matière que se fait ce miracle, non par une création ex nihilo. Là, on va pas rentrer dans le détail, mais mesurer. 8 tonnes 75 ou donc 750 pardon ou 4 tonnes 375 de poisson. C'est-à-dire l'équivalent du travail de 125 boulangeries par jour pour une journée. 125 boulangeries, voilà ce que produit notre Seigneur. On comprend bien pourquoi ils veulent le faire roi après. Effectivement, si on a le point de vue purement matériel, avec un tel roi, tranquille, il n'y a quasiment plus besoin de travailler. On va pêcher un petit peu et puis de toute façon, il va multiplier. Ah, bon, c'est le problème, hein. D'ailleurs notre Seigneur leur échappe parce que malheureusement, ils ont quand même un esprit un petit peu trop temporel. Donc voyez l'abondance. Ils sont tous rassasiés et en plus, il reste 12 paniers. On imagine que c'est majoritairement du pain, ça représenterait environ 28 kilos de pain de reste. C'est quand même pas mal, hein. Je pense que ça a de quoi nourrir les apôtres et les disciples après qu'on a renvoyé tout ce petit monde chez soi. 28 kilos de pain, hein, peut-être 112 baguettes ou quelque chose comme ça, soit la moitié de ce que produit une boulangerie traditionnelle en baguettes chaque jour. Voilà. Donc quand vous penserez au miracle, vous penserez 125 boulangeries et 17,5 tonnes de poissons frais produits par notre Seigneur. Donc on voit la grandeur de ce miracle, la bonté de notre Seigneur et la surabondance avec laquelle il va donner. Si il le fait quand il est encore sur terre, eh bien, on peut imaginer pour des besoins temporels, évidemment, on peut penser, on doit penser que il en est de même et avoir avec plus d'abondance pour nos besoins spirituels. Bien sûr, la multiplication des pains est aussi par ce fait une image de la Sainte Eucharistie. Je ne vais pas insister là-dessus, mais dans la Sainte Eucharistie, notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, se multiplie à l'envi. Et de même que dans ce miracle, nous fournissons la matière première. Il y a cet enfant qui fournit les 5 pains et les 2 poissons. Dans la Sainte Eucharistie, nous fournissons le pain et le vin, et notre Seigneur Jésus-Christ, par la bouche du prêtre, les transforme dans son corps, son sang, son âme, sa divinité, pour se donner avec abondance en nourriture à tout le monde. Donc, mes bien chers frères, à cette manifestation, ces manifestations dans l'Ancien Testament et a fortiori dans le Nouveau Testament de la bonté de la providence divine, nous devons en tirer les conséquences et avoir plus de confiance dans le bon Dieu. Le monde actuel, effectivement, est incertain. Et après, même dans notre vie personnelle, il peut y avoir des difficultés, des frais spécifiques, des inquiétudes, somme toute légitimes. Il peut y avoir donc deux attitudes que nous constatons, même dans l'exemple qui est donné par saint Paul tiré de la Sainte Écriture. L'exemple d'Agar, la servante d'Abraham, et d'Ismaël, son fils. On voit la mentalité de crainte, de servitude, d'inquiétude qui pousse même à la méchanceté. Pourquoi Abraham est obligé d'éloigner sa servante Agar qu'il avait pris comme deuxième épouse? À l'époque, c'était autorisé, ça ne l'est plus. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit très explicitement dans l'Évangile. Pourquoi il est obligé de la rejeter? Eh bien parce que son fils Ismaël persécute son frère, donc demi-frère, à savoir Isaac. Il y a une mauvaise mentalité qui naît de cette peur, de cette servitude, de cette inquiétude. L'attitude d'Isaac, au contraire, est une attitude de confiance filiale, à tel point que lorsque son père lui demande de porter le bois du sacrifice sur la montagne, et il est une image hein, évidemment de notre Seigneur, et c'est lui qui est censé être sacrifié, mais il ne le sait pas, il le fait sans aucun problème, malgré qu'il a vu que son père n'avait aucune victime, aucune bête à sacrifier. Donc on a cette attitude soit de peur, soit de confiance. Bien sûr, le chrétien est fils de la promesse, donc nous devons être dignes de cela. Par conséquent, avoir une attitude de confiance. Si nous avons une attitude de peur, de servitude, d'inquiétude, ça veut dire que nous nous considérons comme des esclaves par rapport à Dieu. Et cela n'est pas une bonne mentalité. Nous sommes certes des serviteurs, mais nous ne sommes pas des esclaves. De même, nous avons le choix aujourd'hui de vivre comme les gens du monde, qui ne croient qu'en leur propre force et qui cherchent anxieusement à tout prévoir et à pourvoir à tous leurs besoins immédiats. Dans ce monde incertain, on est tenté d'être anxieux par rapport à l'avenir. Et donc de pourvoir ou de prévoir tout ce qui pourrait arriver. Et après, on dit, ah ben, chez les jeunes, il y a l'anxiété climatique et compagnie, alors qu'en réalité, elle est produite, n'est-ce pas, par les médias. On prévoit la météo qu'il fera dans 50 ans. On n'est pas capable de prévoir celle qui frappe dans 3 jours, mais c'est pas grave. On est capable quand même de prévoir dans 50 ans. Et fait peur aux gens. On fait peur aux gens pour pouvoir mieux, effectivement, les manipuler. Je ne nie pas en soi la possibilité d'un réchauffement climatique, etc. C'est pas le problème ici. Je ne serai pas non plus mauvais comme on le prétend aujourd'hui. Le tout, c'est d'avoir des arguments qui soient solides, hein, et non pas les pseudo-arguments débiles des milieux complotistes, que malheureusement beaucoup de traditionalistes, par esprit de contradiction, vont se nourrir de ces choses idiotes. Donc, en tant que chrétien, c'est pas se nourrir de choses idiotes que nous devons faire, c'est nous nourrir de la parole de Dieu. Et donc, avoir confiance en la providence divine. Avoir confiance dans la providence divine par rapport au jour présent, par rapport au lendemain également, bien entendu. Mais cette confiance dans la providence divine ne nous dispense pas des efforts nécessaires au quotidien, que ce soit bien sûr dans notre vie spirituelle et que ce soit dans notre vie temporelle. Il faut travailler pour se nourrir. Il faut veiller à pourvoir aussi à nos besoins matériels. Cela est vrai. D'ailleurs, notre Seigneur, à travers ses différents miracles, nous montre que, systématiquement, il y a une matière qui va être utilisée. Bon, il y a la manne, hein, qui est quelque chose d'absolument hors norme et exceptionnel, mais si on prend les autres miracles, ces braves veuves, bien, elles ont déjà de l'huile, de la farine, très peu, effectivement, mais il y a quand même quelque chose. Le prophète Élisée, il a quand même 20 pains. Alors pour nourrir 100 hommes, c'est pas suffisant, mais ils sont là. Et ici, nous avons 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose pour 17 500 personnes, mais il y a une base. Petite, vraiment minime, dans tous ces cas-là. Mais avec ça, le bon Dieu est capable de faire de grandes choses. Donc, dans la vie spirituelle, notre Seigneur Jésus-Christ est capable de faire de grandes choses à partir de nos faibles moyens, à partir de nos faibles forces, en tant qu'homme, en tant que pécheur. Simplement, à nous de fournir nos petits efforts, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va, en quelque sorte, les multiplier en multiplier leurs effets par sa grâce, par les grâces actuelles. De même, par rapport à notre vie matérielle, le chrétien ne passe pas son temps à s'inquiéter de l'avenir et à faire de sa vie un combat, un combat climato-sceptique ou je ne sais trop quoi, ou anti-vax, etc. C'est ça la préoccupation majeure, la plus importante de certains chrétiens. C'est pas catholique, c'est tout, c'est pas chrétien. Notre préoccupation, c'est d'abord le royaume des cieux, d'atteindre la Jérusalem céleste. Et ici-bas, eh bien, de faire nos devoirs par rapport à ça. C'est notre devoir de travailler, de nous procurer notre nourriture, etc., etc., d'une manière ou d'une autre. Eh bien, il faut le faire. C'est notre devoir de d'accomplir notre vie de chrétien, d'obéir aux commandements de Dieu, malgré les difficultés, malgré la société qui effectivement est agressive par rapport à cela. Eh bien, nous avons les moyens de le faire. Non pas par nos propres forces, qui sont minimes, à l'image de ces 5 pains et 2 poissons, que, comme le dit Saint Philippe, mais qu'est-ce que c'est par rapport à toutes les personnes qu'on a à nourrir? Qu'est-ce que c'est par rapport à la récompense du ciel que nous devons mériter? Nos petits efforts, c'est rien du tout. Et pourtant, on le méritera parce que notre Seigneur va donner de la valeur, va multiplier la valeur de ses efforts. Donc voilà, mes bien chers frères, ce que l'Église veut nous rappeler en ce 4e dimanche de carême, à travers ce dimanche qui est consacré à la joie. Eh bien, cette joie, c'est la joie d'être les enfants de Dieu. C'est la joie de savoir, par la foi, que nous avons un Père qui est dans les cieux, et que ce Père qui est dans les cieux, comme nous le récitons dans notre Père, la prière de notre Seigneur, il pourvoit à nos besoins. Nous en sommes certains, par la foi. Donc, tout doute qui est instillé dans notre esprit doit être rejeté au nom de la foi, rejeté comme une tentation du démon, qui veut nous éloigner de la confiance filiale dans notre Père pour nous rendre esclaves, pour nous faire rentrer dans une mentalité uniquement de crainte, de servilisme. Et cette mentalité pousse au final à la défiance envers Dieu. Et la défiance envers Dieu, elle mène qu'à une seule chose, c'est-à-dire au péché. Parce que la défiance envers Dieu, eh bien, va mener à ne compter que sur soi-même. Et c'est aussi toute la mentalité du monde actuel. Chacun ne doit compter que sur soi-même. Parce que Dieu n'existe pas, parce que les autres ne comptent que sur eux-mêmes, et donc il y a cette mentalité qui est généralisée dans nos sociétés. Nous savons en tant que chrétiens qu'il faut compter d'abord sur Dieu, que nous n'avons pas à avoir peur du lendemain, parce que le lendemain appartient à Dieu, parce que la providence divine sait tout, voit tout, pourvoit à tout. Donc, ce qui n'existe pas encore, n'existe pas encore. C'est tout. Par conséquent, nous devons surtout veiller à rester soumis à cette providence divine, lui fournir ce qu'elle nous demande de fournir. Elle nous demande de fournir notre bonne volonté, notre foi, je viens de le dire, mais notre bonne volonté, notre obéissance, c'est-à-dire de rester dans la grâce sanctifiante et de rester dans les commandements de Dieu. Mais même ça, ça repose sur nos pauvres efforts qui vont être déjà soutenus par la grâce de Dieu, par des grâces actuelles en permanence. Mais ça, nous devons le savoir parce que là aussi, l'Église l'enseigne très clairement à la suite des saints évangiles, à la suite de notre Seigneur, à la suite bien sûr des saints apôtres. Donc, mes bien chers frères, nous devons veiller à cela. Rester dans la joie, rester dans la paix et surtout rester en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui fournir ce que nous avons à lui fournir. Et c'est ce que dit admirablement le bienheureux Claude de la Colombière. La providence ne nous manquera jamais tant que nous ne lui manquerons pas nous-mêmes. Donc ne manquons pas à la providence. Et nous savons à ce moment-là, par la foi, que la providence ne nous manquera jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.